Vous écoutez RTL. RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hulk.
Bonjour les curieux, c'est votre nouveau 14-15h sur RTL, l'émission qui se passionne pour tout, la science, les aventures, les grands destins, la musique et la nature. Bonjour Thomas.
Salut Sidonie, vous
allez
bien?
Vous êtes très nature, vous.
Oh, moi je suis tout ça à la fois, moi je suis très heureux d'être là. Surtout bonjour à toutes, bonjour à tous. Au programme, un must de nos plateaux de fromage, le camembert. Une histoire bien française où l'on croise un prêtre réfractaire, une fermière et des poilus.
Tout ça dans un camembert?
Oui, tout ça.
C'est fort. Et tout de suite, on part à la recherche du Yéti.
Depuis la nuit des temps, on dit que le Yéti vivrait au Bhoutan.
RTL.
Dans leur langue, les Bhoutanais l'appellent le Migueu.
Alors qu'ils descendent une pente escarpée, les excursionnistes voient au travers d'une crevasse en contrebas une large créature velue qui marche debout.
La curiosité est un vilain défaut.
J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yéti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges.
Oui, ben non, on n'en est pas si sûr. Le Yéti existe-t-il? On aura peut-être la réponse dans cette émission avec notre invité. Bonjour Jean-Louis Morette.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Soyez le bienvenu. À quoi ressemble votre Yéti à vous, votre homme sauvage, celui que vous recherchez?
Celui que je recherche, bon, on peut l'appeler Yéti, hein, son nom. Moi, je le recherche plus particulièrement en Russie, puisque c'est la zone où, depuis un siècle, on a des milliers de témoignages d'un hominidé inconnu, qui ressemble tout à fait au Yéti, hein, mais qui serait quand même pas le Yéti, c'est un petit peu différent. Donc, on peut l'appeler, là-bas, il s'appelle Almas ou Almasti.
D'accord.
Ouais, les Russes l'appellent aussi Yéti, c'est le nom commun.
Nous, pour l'émission, on peut l'appeler le Yéti du Caucase,
ouais,
par exemple.
Tout à fait, oui, on peut l'appeler le Yéti du Caucase.
Et alors, il ressemblerait à quoi, ce Yéti du Caucase?
Ça serait entre le singe, ça serait un primate, entre le singe et l'homme. Mais c'est plus tout à fait un singe et c'est pas encore un homme.
Il est grand, très grand?
Comme un homme, donc on est entre 1m80, 2m20. Bon, après, on peut penser aussi que les témoins, des fois, ils sont tellement surpris qu'ils ont tendance à exagérer la taille.
Très poilu. Ça peut pas être un homme mal rasé, tout simplement?
Non, parce que bon, il est tout nu, il est couvert de poils. Bon, ils sont très mauvais.
On en a vu, hein?
Oui, ça pourrait être un homme.
Il est tout nu, couvert de poils.
Racontez pas vos expériences personnelles, Sidonie Bonnec. C'est pas raisonnable, il est beaucoup trop tôt dans la journée. Depuis quand? Parce que c'est une recherche particulière, surprenante. Depuis quand vous cherchez ce Yéti du Caucase, Jean-Louis Morette?
Moi, je cherche pas depuis longtemps, je cherche depuis 2013 exactement. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, on appelle ça la cryptozoologie. Oui. C'est un scientifique belge, Bernard Levaillement, qui avait lancé ça dans les années 53-60, par là.
C'est quoi? C'est la recherche des animaux?
C'est l'étude des animaux inconnus. Donc les animaux, ils peuvent être inconnus, on peut avoir des empreintes, on peut avoir comme ça des indices ou alors des témoignages. Donc c'est l'étude de créatures comme le monstre du Loch Ness, le Mokolembembe, le Yéti.
Qu'est-ce qui vous met sur la trace de ce Yéti du Caucase? Pourquoi d'un seul coup? C'est quoi votre métier, tiens, d'ailleurs?
Moi, je suis écrivain, moi je suis spécialisé dans la plongée sur les épaves contemporaines.
Et qu'est-ce qui fait que
vous êtes breton aussi? C'est important de le dire.
Oh, ouais,
à moitié,
parce
que mon père est de Carcassonne. Non.
Ah bah ça va alors.
Breton,
alors je vous accepte.
Je suis sauvé. Ouais.
Moi je suis moitié mayennais, moitié corse, et puis quelques influences supplémentaires. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous écrivain, plongeur, vous dites il faut que je trouve ce Yéti du Caucase?
C'est quoi le déclic? C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et en 2012, j'ai un ami qui vivait en Russie, qui est resté là-bas une quinzaine d'années et qui s'ennuyait un petit peu. Il avait envie d'un bol d'air. Il me dit qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une expédition, vivre une aventure comme ça, plutôt en Russie, parce que lui, il avait des facilités pour organiser quelque chose là-bas. Il me dit qu'est-ce qu'on pourrait faire en Russie? Chercher un trésor, chercher quelque chose comme ça. Je lui dis, on peut aller chercher le Yéti. Ah, il me dit, ah bon, il y a le Yéti. Puis bon, je lui ai expliqué un petit peu, j'ai montré des livres écrits par des Russes et puis des Français. Et comment dire, il a dit, bon, on va aller chercher le Yéti.
Moi, quand je lisais Tintin, les albums Tibet, de Tintin, Tintin au Tibet, évidemment, avec ce Yéti, me disais, mais ça ne doit pas exister, c'est de la fiction. En fait, le Yéti de Tintin n'est pas une invention. Hergé en a entendu parler à son époque.
Oui, bien sûr. Vous savez, en 1953, quand Sir Hilary a vaincu l'Everest, il y a quelqu'un, je sais plus, j'ai pas le nom en tête, mais qui avait photographié des empreintes dans la neige. Et là, le Yéti a été popularisé par les médias à travers le monde. Et justement, à la même époque, dans les années 60, les soviétiques ont pensé, mais nous aussi, on a un homme sauvage, on a un Yéti dans le Caucase.
Mais ça ressemble. Allez-y, pardon.
Oui, non, et puis et dans toute la Sibérie, et puis beaucoup de pays ex de l'Union soviétique, Kyrgyzstan, Kazakhstan, ces pays, Pakistan aussi, Afghanistan.
Mais pourquoi dans cette région précisément? C'est des terres propices, très sauvages.
C'est sauvage, vous savez, la Russie, c'est très très grand, il y a très peu d'habitants en fin de compte. Le Caucase, c'est pareil, c'est très sauvage.
Mais il y a des endroits coupés du monde.
Oui, c'est
pardon, on a plus une question avec Thomas.
Ça ressemble à quoi? Parce que moi, je vous avoue
le Caucase,
que
c'est très varié, loin, suivant les régions du Caucase. Donc, ouais. si on est dans le sud, on peut aller à Sotchi, on va être au bord de la mer. Mm-hmm. Et puis après, il y a la montagne, il y a l'Elbrouz. Donc, c'est très, très varié.
Donc, ça veut dire qu'il y a des coins dans le Caucase et ces montagnes russes qu'on ne connaît pas et où peuvent peut-être vivre un ou deux ou trois yétis, c'est ça?
Même un million.
Bah c'est, ah non, vous exagérez.
Ah non, si grand que ça?
Non, c'est, bah c'est Yves Coppens ce qu'il a dit. Il a dit éventuellement il pourrait y en avoir un million, que ça serait tout à fait possible.
Alors,
mais il y en a moins, évidemment. Ouais.
Quel indice le Yeti a-t-il laissé révélation dans un instant sur RTL?
RTL.
De 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Avec Jean-Louis Morette, écrivain, plongeur et chasseur de Yeti, le Yeti du Caucase en Russie. Donc on recherche avec vous cet homme sauvage, ce primate qui se baladerait dans les montagnes. Il y a beaucoup de témoignages. Combien de personnes disent avoir vu cette hominidée, cette bestiole?
Ah oui, là, dans le Caucase, on a des milliers de témoignages. Il y a la spécialiste, c'est une dame qui s'appelle Marie-Jeanne Kaufmann, qui était franco-russe, maintenant qui vit en France parce que, bon, elle est âgée, elle est en région parisienne. Elle, c'est la spécialiste de l'homme sauvage du Caucase. Donc du Yeti russe. Elle a recueilli plus de 2000 témoignages.
Est-ce que les témoignages correspondent, concordent? Qu'est-ce que disent les gens? Qu'est-ce qu'ils disent avoir vu?
Ah ben, on a des témoignages, oui, qui concordent tout à fait. Les gens voient un hominidé, un bipède inconnu qui ressemble vaguement à un singe, mais vaguement à un homme, qui est couvert de poils, qui est nu, et qui a un air bestial.
Qui est quoi? Peureux? Violent?
Non,
c'est quoi son
attitude? Pas du tout. Il est plutôt timide. Il a une vie plutôt nocturne. Donc, soit il vient vers les hommes parce qu'il est curieux quand même. Soit il essaye de les éviter parce que bon, les hommes ne sont pas toujours très sympathiques.
Il y a un témoignage de randonneurs aussi. Qu'est-ce qu'ils ont vécu comme mésaventures?
Il y en a plein des randonneurs qui ont eu des pas vraiment des mésaventures parce qu'ils ne sont pas attaqués. Mais bon, il faut une rencontre qui les surprend, qui les a peur.
Ou ils ont des éléments qui disparaissent, comme de la nourriture.
Ouais, ouais. Par exemple, là, au mois de septembre, j'étais un mois au Kazakhstan. Donc, j'ai eu une démarche un petit peu différente des trois expéditions précédentes en Russie parce que là, j'étais voir directement des professionnels, des eaux et forêts ou des gardes. Donc là, c'était les gardiens de la réserve naturelle du lac Kolsay. Il y a le chef, l'inspecteur en chef des gardiens qui m'a raconté il y a quelques années, il y avait des gens qui faisaient du trek dans la réserve et puis ils avaient suspendu leur nourriture dans un petit sac dans des branches, quoi, un petit peu en hauteur pour que ce soit pas attaqué par des bestioles. Et là, ils ont vu une sorte d'hominidé comme ça, un bipède velu qui est venu, qui a arraché le sac de nourriture qui est parti avec.
Est-ce qu'il est du camembert? On en parle tout à l'heure. Est-ce qu'il aime le camembert, le Yeti? De quoi se nourrit-il?
Il est omnivore, il mange de tout. Donc il va manger des insectes, il va manger des tubercules, des fruits, des charognes.
Où est-ce qu'il dormirait, ce Yeti? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'il y a des endroits dans ces montagnes du Caucase où ils peuvent se reposer, s'abriter?
Dans le Caucase, il y a énormément de grottes. Donc d'après les Russes qui avaient étudié un petit peu le phénomène Yeti, pour eux, ils seraient troglodytes. Donc ils iraient dans des grottes. À côté de ça, Marie-Jeanne Kaufmann a trouvé aussi des couches, des sortes de nids qui avaient été faits par une créature comme ça inconnue.
Un nid assez grand, c'est ça?
Oui, bon, des feuilles, des herbes, quelque chose, de la paille, un petit peu...
Alors vous
pour
menez...
avoir un minimum de confort.
Bah bien sûr, même si on a un Yeti, on peut quand même
surtout quand on vit
avoir
nu,
un canapé, quelque chose de sympa.
Oui, oui.
Alors vous menez l'enquête depuis plusieurs années, 4-5 ans, c'est ça?
Depuis 2013. On a fait une première expédition avec un ami, le comte Henri Tider, là, celui qui a financé toutes les expéditions. Ouais. Là. Et comment dire, lui qui parle russe, donc ça l'intéresse aussi.
Et ça aide. Et en 2014, vous faites une découverte majeure, laquelle?
Oui, avec Henri, on se baladait le long d'une petite rivière et on a trouvé une empreinte de pied droit qui mesurait 45-47 cm de long. Un pied nu, qui avait une forme de pied humain, mais qui était énorme, quoi, 47 cm. Puis les gens ne se baladent pas pieds nus dans le Caucase.
Et vous avez pris une photo de cette trace?
Ah bah oui, j'étais content.
Et vous avez essayé de la faire authentifier?
Mais authentifier auprès de qui? C'est ça le problème.
Bah, Yves Coppens, par exemple.
Bah, Yves Coppens dirait oui, il y a une empreinte de pied. Maintenant, il aurait idéalement fallu faire un moulage. On n'avait pas le matériel.
Mais ce n'était pas, j'imagine, la première fois qu'on réussissait à voir et donc à photographier une empreinte comme celle-là. Ouais. C'est rare quand même.
C'est assez rare parce qu'il n'y a plus personne ne cherche, en fin de compte. Depuis l'époque de Marie-Jeanne Kaufmann, Boris Porchnev, ces soviétiques qui cherchaient dans les années 60-70, on n'a plus personne qui va sur le terrain là-bas, dans le Caucase, en Russie ou ailleurs. Bon, il y a quelques personnes qui vont aux États-Unis parce que c'est plus facile. Déjà, tout le monde parle plus ou moins l'anglais. Mais sur la Russie, c'est beaucoup plus difficile.
Et si vous... Comparer Jean-Louis Morette, votre photographie, votre empreinte d'hominidée, on va vous suivre, à d'autres photos qui ont été faites précédemment dans la même région. Est-ce que vous trouvez des similitudes, par exemple ?
Pas vraiment.
Pas forcément.
Non, parce que les autres empreintes ont été faites souvent dans de la boue aussi, pareil.
Ouais.
Il y a eu des moulages qui ont été faits. Ça reste toujours sujet à caution. Vous savez, quand c'est les autres qui le font...
On ne croit que ce qu'on voit.
Voilà, exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait cette démarche en 2013 d'aller sur le terrain pour être sûr que...
Est-ce que vous avez accumulé d'autres indices ? Parce que j'imagine qu'il faut prouver l'existence de ce Yeti. Il y a cette trace de pas. Est-ce qu'il y a des bruits aussi un peu étonnants que vous avez entendus ?
Il y a des bruits. La première fois, dans l'Altaï, on a entendu des bruits. C'était assez bizarre. C'était comme des coups de gourdin, vous savez, sur des troncs d'arbres. C'était très, très fort. Et ça tournait autour de notre petit campement. Et ça,
c'est pour être un ours ?
Non, les ours ne donnent pas des coups de gourdin sur les troncs d'arbres.
Non.
Et si c'était un être humain, il serait venu nous voir. Parce qu'il se dit, bon, il y a peut-être un coup à boire.
Vous connaissez bien les êtres humains. Mais donc ça veut dire que le Yeti du Caucase n'aime pas l'alcool.
On ne sait pas. Il faudrait l'attirer. Non, je pense qu'il préfère le camembert.
Il paraît que ce Yeti du Caucase serait attiré par les chevaux. Pour quelle raison ? Et comment ? Qu'est-ce qui vous l'a prouvé ? Vous l'a indiqué, en tout cas ?
Non, rien ne le prouve, justement. À chaque fois, c'est des gens qui disent ça. Donc on a. Bon, il y a des gens qui disent qu'effectivement, ils ont trouvé des tresses qui avaient été faites sur des crinières de chevaux. Mais bon, il y a d'autres scientifiques qui disent que ça peut être aussi, ça peut se faire dans la nuit avec la sueur, avec la rosée. Donc non, ça reste encore à prouver.
Alors, est-ce qu'il faut prendre des risques pour partir comme ça à la recherche du Yeti du Caucase ? On répond à cette question tout de suite sur RTL.
Un petit groupe d'explorateurs s'est lancé à la poursuite d'un être primitif et cruel dont l'existence ne semblait possible que dans notre imagination.
RTL.
En utilisant une évaluation conservatrice, disons 43 cm pour la largeur de la trace, nous pouvons estimer la proportion des membres et la dimension de la créature. En s'appuyant sur ces données, nous parlons donc d'un spécimen qui est entre 2 mètres et 2 mètres et demi de haut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Abominable! C'est un monde tout de même. Est-ce que j'ai l'air si abominable? Pourquoi m'ont pas appelé l'adorable homme des neiges ou l'agréable homme des neiges, tonnerre de gneu? Je suis plutôt avenant.
La curiosité est un vilain défaut.
Boule de glace?
On ne sait pas si on cherche un abominable homme des neiges ou un adorable hominidé. En tout cas, c'est sans doute un homme sauvage. On l'appelle le Yeti plus communément. Il y en aura un petit peu partout dans le monde. Et notre invité, Jean-Louis Morette, écrivain, plongeur, le poursuit de ses rêves, parce que vous rêvez de le voir et de le rencontrer, ce Yeti. Est-ce que les gens vous prennent au sérieux quand vous racontez vos aventures et vos expéditions à la recherche de ce Yeti dans le Caucase ?
A priori, non. De prime abord, les gens, ça les fait rire, ça les fait sourire. Puis dès le moment où on leur explique un petit peu, où on leur montre des écrits comme ça, ça les intéresse. Après, dans le Caucase, c'est différent, parce que les Caucasiens sont persuadés de son existence. Donc ils en parlent communément. Une fois qu'on a passé un peu la barrière... parce que les gens sont méfiants comme ça, on peut pas les questionner brutalement sur l'existence de l'almastie du Yeti là.
Il y a des scientifiques qui travaillent sur cette question. Vous parliez de Yves Coppens qui est passionné, qui dit qu'il y aurait peut-être des millions de Yetis encore, cet élément manquant peut-être dans notre humanité.
Non, Yves Coppens n'est pas passionné. Yves Coppens dit que c'est possible.
C'est possible.
Donc lui, prouvez-moi que ça n'existe pas et prouvez-moi que ça existe. Donc lui, il est ouvert. Après, on a d'autres scientifiques. Là, j'en ai rencontré justement au Kazakhstan. Dès qu'on a eu des scientifiques, ils disent non, ça n'existe pas. Mais ils n'ont jamais enquêté. Ils n'ont pas été voir. Ils n'ont pas été sur le terrain, souvent, les scientifiques. Donc, c'est assez curieux.
Mais justement, sur le terrain, d'abord, tiens, qui finance ? Parce que ça coûte de l'argent de partir dans le Caucase, etc.
Oui, c'est le copain, c'est Henri qui a financé les premières expéditions. Donc là, c'était pas un souci.
Ça coûte cher ?
Ça coûte, non, aller sur le terrain, ça coûte pas très cher. Bon, un aller-retour Moscou, après on descend sur le Caucase. Puis après, une fois qu'on est sur le terrain, ça coûte pas cher. Parce
vous campez ?
On campe. Donc il y a des soupes chinoises et puis du fromage, justement. Les fromages caucasiens, ils se conservent longtemps, mais il ne vaut pas le camembert normand.
Ouais.
Mais non, ça coûte pas très cher. Donc ce qui coûte cher, c'est le matériel de recherche. recherche matérielle d'investigation. Et c'est là où il faudrait justement de l'argent, parce qu'il faudrait des jumelles à intensification de lumière ou thermique, des pièges photo.
Ah oui, pour pouvoir.
Et là, c'est ce qui manque, parce que là, pour l'instant, on enquête auprès de la population. Bon, ouais. On fait du trek, on se balade, on cherche des empreintes, des poils, des choses comme ça. Bon, des poils, j'en ai trouvé de différents animaux.
Ah oui, et tous ces poils correspondent à des animaux connus ou il y a des poils mystères?
Non, il n'y a pas de poils inconnus, parce que d'ailleurs, justement, on n'a pas besoin de montrer ça à des scientifiques pour faire des tests ADN. N'importe quel chasseur du coin, il va dire c'est de l'ours, c'est du loup, c'est du cheval.
Mais Jean-Louis Morette, pourquoi il nous fascine ce Yeti? Parce qu'il y a le Yeti dans le Caucase, le Yeti en Asie, Bigfoot aux États-Unis. Donc finalement, c'est un point commun de l'humanité. On cherche cette hominidé, mi-singe, mi-homme. Pourquoi? Parce que c'est le chaînon manquant. C'est quoi le fantasme, en fait?
Je sais pas. Moi, je trouve ça, c'est intéressant. Sur Terre, on a l'impression que tout est connu. Je l'ai vu avec le monde sous-marin. On arrive à trouver des épaves justement inconnues, qui ne sont pas répertoriées. On a la même chose sur Terre, avec des créatures qui sont vivantes.
On n'a pas tout découvert, c'est ce que vous dites.
Non, on n'a pas tout découvert. Alors, on nous dit, oui, mais les satellites... Non, les satellites, ils peuvent repérer une balle de ping-pong, mais il faut qu'ils soient prévus pour ça. Et personne ne le cherche.
Jean-Louis Morette, est-ce que vous avez imaginé votre futur, peut-être, hypothétique, face à face avec le Yeti?
Ah oui, mais j'imagine.
Alors, qu'est-ce que vous imaginez?
J'en ai rêvé, déjà.
Alors, racontez-nous, ça ressemblera à quoi? Vous réagirez comment? Parce que c'est important de s'y préparer.
Si moi, je le vois avant lui, je serais moins surpris. Si c'est lui qui me pose la main sur l'épaule, je pense que là, on doit être quand même assez surpris.
Vous êtes armé quand vous partez dans ces expéditions?
Non, on
n'a
rien, à part le couteau suisse. Non, mais déjà, en Russie, de toute façon, on n'a pas le droit d'avoir d'armes. Donc, il y a une législation très, très stricte sur les armes à feu. Donc, c'est simple, c'est interdit.
Vous allez le capturer? Vous allez en faire quoi de ce Yeti?
Non, mais... un couteau pour tailler du bois ou une hache, pareil, pour faire le feu, ça s'arrête là. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il soit agressif.
Vous allez le prendre en photo, il se passera quoi?
J'aimerais bien le prendre en photo.
Un selfie avec un Yeti.
Après, c'est difficile parce que la photo, même si on est prêt, on n'est jamais suffisamment prêt. On est toujours surpris.
Mais c'est quoi les risques d'une telle expédition? On est dans la montagne, on est dans un milieu un peu hostile. C'est quoi les risques?
Le plus gros risque sont les ours. Nous, on a été embêté avec les ours en 2014. La deuxième expédition, les ours étaient présents. Là, ils venaient nous renifler. Ils couraient le long de la tente la nuit. Donc, on a les doigts dessus en éventail avec la petite lampe. Là. C'est un peu léger quand même.
On dort pas bien, quoi.
On dort pas bien, non.
Pour prouver l'existence du Yeti, vous avez imaginez une station d'études. Vous nous racontez ça dans un instant sur RTL. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on goûtera l'histoire du camembert.
Ah.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Et on continue notre aventure sur les traces du Yeti avec Jean-Louis Morette qui le guette depuis des années dans les montagnes du Caucase, dans le sud de la Russie. Ce Yeti qu'on appelle l'Almast ou l'Almasti là-bas. Pour l'instant, vous avez, on en a parlé à l'instant, réussi à photographier une trace, une empreinte de pas assez impressionnante. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour aller plus loin, pour prouver son existence?
Là maintenant, il faudrait faire un travail d'investigation. Oui. Donc ça, aller dans la réserve naturelle de biosphère du Caucase, une grande réserve naturelle qui est sur la Kabardino-Balkarie, la Tcherkaïevo-Tcherkassie. Donc il faudrait mettre des pièges photos, aller les relever, aller aussi auprès des populations pour questionner. Il faut refaire le travail qui a été fait par les soviétiques à l'époque de Boris Borchtchev et Marie-Jeanne Kaufmann.
Donc ça, dans les années 60.
Dans les années 60, parce que plus rien n'a été fait. Puis donc on vit un petit peu au siècle dernier sur des...
Mais ça coûte beaucoup d'argent, j'imagine. D'abord, il faut l'autorisation et ensuite il faut
un généreux mécène, je suppose.
Ouais. Comment on fait pour vous aider? On vous écrit?
On m'écrit comme on voit des chèques.
Ah oui, c'est quoi? Vous avez un Facebook, quelque chose?
Oui, on peut aller sur Facebook, ça s'appelle l'expédition Almasti.
Almasty.
Et c'est vrai que non, il ne faut pas énormément d'argent. Avec 20 000 euros, on peut faire quelque chose de très très bien.
C'est déjà une très belle somme, ouais.
Oui et non, parce que quand on voit le prix d'un multicoque de course océanique, non, c'est une petite somme, c'est dérisoire.
Aidez Jean-Louis Morette à réaliser ses aventures. Merci beaucoup.
Merci.
Et si vous le croisez, le Yeti, évidemment, on veut avoir la primeur de votre découverte. Vous revenez à la curiosité.
Je reviens, évidemment.
J'espère bien. Et en attendant, on vous a mis sur nos réseaux sociaux la photo de cette empreinte de pas du Yeti. Merci beaucoup, Jean-Louis Morette.